Depuis une vingtaine d'années, un projet de mémorial sur la présence française en Outre-mer était dans les tiroirs des différentes municipalités de la ville de Marseille. Un projet aujourd'hui national, puisque l'État a rejoint la municipalité en 2002. Jean-Claude Gaudin voit donc satisfaire cette ambition et en 2007, ce projet verra le jour aux alentours, enfin c'est vers le Prado, que se situe le mémorial. Un mémorial national de la France Outre-mer. Pour en parler avec nous, Jean-Jacques Jordi, historien, spécialiste des questions du Maghreb et plus particulièrement de l'Algérie, et aujourd'hui directeur de ce mémorial. Et puis avec nous également Martine Corned, qui est directrice du Centre des archives d'Outre-mer, qui sont situées à Aix-en-Provence. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, comment l'histoire s'écrit ? Quelle mémoire donne-t-on à voir, à écouter, à regarder ? Comment se font les choix sur un passé collectif ? Comment ce mémorial fonctionne ? Qui décide de son contenu ? Quelle image de la France veut-on donner au travers de ce lieu de mémoire ? Comment sont traités les événements post-coloniaux, les conflits actuels, les méfaits du colonialisme sur l'histoire contemporaine ? Bref, un mémorial pour qui, pourquoi et pour dire quoi ? Ça va être un petit peu le thème pendant ces minutes qui vont suivre. Donc beaucoup de questions. On va tenter quand même d'y répondre le plus largement possible avec nos invités. Donc Jean-Jacques, je me tourne vers vous maintenant. Ce projet de mémorial, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ça fait quelques années quand même qu'il est dans les tiroirs de la municipalité. Comment il s'est construit ? Comment l'idée s'est développée dans la tête, on va dire, de nos politiciens pour mettre en place ce lieu de mémoire ?
Tout d'abord, c'est une idée qui part de l'État en 1983 et du plus haut personnage de l'État, puisque c'est le président Mitterrand à l'époque qui lance une réflexion sur la présence française outre-mer. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait un mémorial ? Est-ce qu'on fait un musée ? Est-ce qu'on fait un centre ? Est-ce qu'on fait une cité ? Mais l'idée commence là. Je pourrais dire très rapidement, parce qu'on ne va pas refaire tout l'historique, ça me prendrait trop de temps. Mais de 1983 jusqu'en 1995-96, c'est une suite d'avancées et de reculs, tant et si bien que le projet ne voit pas le jour. Sans doute par absence de projets scientifiques, de projets culturels forts et de reculs par rapport à l'histoire. Donc on peut dire qu'en 1995-96, le projet est enterré.
Est-ce que c'est un projet aussi qui répond à une attente de la communauté pied-noir, quand même, qui a eu un besoin de reconnaissance par rapport à l'histoire qu'ils ont pu vivre en Algérie
Il peut y avoir cette attente, qui est après tout légitime, comme toutes les attentes d'une population qui souffre, qui ne voit pas reconnaître le travail qu'elle a pu faire, etc. Mais je crois que l'idée même du mémorial, c'était de pouvoir jouer un rôle citoyen, un rôle civique, un rôle d'éducation, un rôle politique au sens premier du terme dans la cité. Parce que finalement, quand on regarde bien cette présence française outre-mer, qui a commencé il y a fort longtemps, qui s'est vraiment développé au 19e, 20e siècle. Hein. Et d'ailleurs, le mémorial, actuellement, ne trahira que sur les 19e, 20e siècle et puis début du 21e siècle. Cette présence a des répercussions, je dirais, quasi obligées sur une grande partie de la population française aujourd'hui. Qu'elle soit rapatriée de toute origine, qu'il s'agisse de soldats ou de militaires, qu'il s'agisse de grands-oncles, de grands-pères, d'arrière-grands-pères qui sont allés un peu partout dans les colonies ou aux colonies, comme on disait avant.
On a tous des ancêtres,
voilà, on a tous...
Soit des colons, soit des colonisés.
Oui, voilà, mais on a, ou ni l'un ni l'autre, de personnes qui étaient là, quoi. Qui se trouvaient dans ces situations-là et dans ces espaces-là. Donc il y a un point d'histoire, il y a des faits historiques qu'il convient de rappeler, parce que justement le phénomène de la colonisation et de la décolonisation, c'est que pendant un temps, on va dire au 19e et début du 20e siècle, la colonisation était quelque chose de mise en scène, il y avait une propagande, c'était jeunes gens, engagez-vous, allez voir du pays, hein, c'était à peu près ça. Donc, et il y avait une véritable culture coloniale qui a pénétré la plupart des foyers français. Hein. Et puis, après, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, tout début, un petit peu avant, et puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui était colonial est devenu quelque chose d'affreux, d'haï, d'honni, qu'il fallait à tout prix rejeter. Et on est resté dans cette période, finalement, d'affrontement entre soit les aspects positifs, soit les aspects négatifs. Mais ça allait souvent plus loin, c'est-à-dire on était entre les bienfaits et les méfaits, comme si ça devait s'opposer. Et on est allé jusque le bien contre le mal. Hein.
Voilà, alors,
donc il faut sortir de ces
appréciations-là. Du coup, l'objet de ce mémorial, c'est d'être neutre par rapport à cette histoire, à ce passé colonial.
Un historien n'est jamais neutre. La neutralité, ça n'existe pas. Ce qu'on peut être,
ni
c'est
pour,
honnête.
Ni contre.
Non, c'est pas d'être ni pour ni contre. C'est d'être honnête avec les documents qu'on va avoir en main et qu'on va montrer. On va forcément donner à voir et on va donner à lire. Donc on a un discours, mais un discours qui est scientifique et qui se veut aussi un peu apaisant face aux turbulences des mémoires. Donc la neutralité, moi je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est de dire n'essayons pas de faire cette histoire-là, de cette présence française, comme d'un tout. Tout bon ou tout mauvais, mais d'ailleurs c'est pas un tout, c'est extrêmement complexe. Les phénomènes coloniaux sont extrêmement ambigus, complexes, mais c'est pas parce que c'est complexe, ambigu et difficile à comprendre qu'on peut pas le donner à voir. Et nous c'est ce qu'on essaye de dire et de faire, c'est-à-dire on donnera à voir ce qui s'est passé et sans volonté de glorification ni de diabolisation.
Alors pourquoi avoir choisi pour mot le terme de mémorial et non pas musée, par exemple, musée de la colonisation ou...
Parce que déjà existe...
Mémorial, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'affectif derrière ce mot, alors, et du coup on se dit, mais alors pourquoi il y a de l'affect dedans?
C'est exact, il y a deux choses. D'abord, quand on parle de mémorial, on a l'impression que ça évoque plutôt la mort que la vie. Quelque chose de passé, une commémoration...
on rend hommage.
Oui, enfin, comme dans les monuments aux morts, il y a d'ailleurs des mémoriaux qui sont uniquement des pierres ou des monuments aux morts. Ça n'empêche pas qu'un monument aux morts, ça fait quand même marcher le souvenir. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est devant quelque chose qu'on pense à des gens. Et si vous êtes devant un monument aux morts de la guerre 14-18... si vous avez un peu de culture historique, vous pensez à la guerre 14-18, aux boucheries, que ce soit à Verdun, que ce soit au chemin des Dames, aux difficultés, enfin bon, voilà. Donc ça, le souvenir doit faire appel à la culture historique. Voilà. Donc le mémorial, parce que je pense que politiquement, ça avait été décidé que ça devait s'appeler au mémorial, mais c'est moins l'appellation qui est importante que ceux qui va s'y faire, en fait. Petit à petit, regardez le mémorial pour la paix, le mémorial de Caen, il s'appelle bien mémorial et pourtant il est extrêmement dynamique. Et quand on dit le mémorial de Caen, on n'imagine pas quelque chose de figé ou de statique. Hein, c'est extrêmement vivant.
Mais en même temps, c'est vrai que dans le mémorial, il y a aussi cette notion d'hommage. Quoi. Et moi, je me pose la question, mais finalement, avec ce passé colonial, mais à qui rend-on hommage? Vous avez,
Le conseil scientifique, bon, n'est pas là pour rendre hommage. Il est là pour dire ce qui a été, en multipliant ses sources, hein, que ce soit des témoignages, que ce soit les sources d'archives, que ce soit les films, les photos, mais toujours à travers une analyse critique. Non. Quelqu'un qui vous fait un témoignage, on peut le prendre comme une vérité, c'est la vérité de la personne. Mais il faut croiser ce témoignage avec d'autres témoignages ou avec des sources d'archives. C'est ça qui fait le métier d'historien. C'est cette capacité à croiser et à avoir une analyse critique. Un critique, ça ne veut pas dire c'est bon ou c'est mauvais. Hein. Vous pouvez avoir des critiques positives aussi. Donc on n'est pas là pour rendre hommage, mais je dirais qu'on est là, et c'est un peu la difficulté de ce mot mémorial. Le mémorial, c'est un équilibre. C'est un équilibre forcément entre l'émotionnel, hein, c'est peut-être le rendre hommage dont vous parlez, un peu l'émotionnel, la personne qui vient, qui viendrait et qui dirait mais qu'est-ce que je vais retrouver qui va faire sens pour moi, mais dans mon parcours, dans ma trajectoire individuelle. Et donc équilibre entre l'émotionnel et le rationnel, qui est le discours historique, scientifique que nous mettons en place. Et comment cet émotionnel va s'inscrire complètement ou en partie dans le discours historique. Donc vous voyez, on est dans cet équilibre. Mmh. Mais on n'est pas là pour décerner des lauriers ou décerner des peines de prison. Quoi. Un historien, ce n'est pas un juge.
Outre-mer ? Pour continuer un petit peu sur le vocabulaire de,
bah, outre-mer,
de ce projet.
Je laisserai Martine Cornette, puisque le Centre des archives Outre-mer, c'est plus son domaine.
Oui, c'est mon domaine, mais ce n'est pas moi qui ai baptisé le centre de ce nom-là. Donc, je crois, moi, me semble-t-il, hein, que si on dit Outre-mer, c'est parce qu'en fin de compte, la France, quand elle est partie fonder des empires coloniaux, elle a toujours pris un bateau, si je puis dire, avec ses troupes et ses explorateurs et ses missionnaires et même les gens qui partaient un peu à l'aventure. Et ils sont toujours partis Outre-mer, qu'ils aillent au Québec, qu'ils partent en Afrique, qu'ils débarquent en Algérie, qu'ils aillent en Indochine. Je crois que c'est cet aspect-là qu'on a voulu signaler et peut-être aussi pour... déjà, peut-être, quand on a créé le Centre des archives d'outre-mer, ne provoquer aucune mémoire en parlant de colonisation.
Alors, quand on parle de présence française, ou à la base, il y avait un autre titre aussi pour ce mémorial, c'était les mémorials des œuvres françaises d'outre-mer.
C'était le mémorial de l'œuvre française d'outre-mer.
Alors, pourquoi vous avez changé?
Parce qu'il nous semblait que l'œuvre, c'était quelque chose de, justement, peut-être de glorificateur à l'excès, hein, une œuvre. Bon, vous allez me dire, il y a toujours l'œuvre noire. Mais si, prenez le Robert, et vous voyez, à œuvre, il y a marqué travail. Donc, on peut dire, alors est-ce qu'on peut faire un mémorial du travail des Français outre-mer? Voilà. Ça,
ouais, et puis, ça allait donner une image positive. Pour reprendre le terme qu'on dit partout, ça donnait peut-être une image un peu trop positive.
C'est-à-dire que l'œuvre, dans l'idée du conseil scientifique, c'était qu'une œuvre est toujours un peu figée. Une œuvre, ça se trouve dans les musées. Alors, je ne dis pas que les musées sont vieillots, hein, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais une œuvre se trouve dans un musée, et puis une œuvre, par essence, elle n'évolue pas. Elle ne change pas. Un tableau, ça ne change pas. C'est justement parce que ça ne change pas que ça s'œuvre de plus en plus.
Mais son interprétation, par contre, peut complètement évoluer.
Oui, l'interprétation, sans doute. Mais là, on parlait d'hommes, on parlait d'hommes, de femmes, de contacts, de rencontres.
Bon,
et donc,
qu'est-ce
c'était
qu'on va...
difficile de parler d'œuvre.
Quel est le contenu donc, de ce mémorial? Comment rendre compte d'une mémoire collective sur cette présence française outre-mer?
Alors,
donc, c'est très vaste.
On va rendre compte de plusieurs mémoires. Parce que là où les Français se sont installés, des mémoires se sont développées. Un rapatrié d'Indochine n'a pas la même mémoire qu'un rapatrié d'Algérie. Et même dans les rapatriés d'Algérie, celui qui est venu en 61 par rapport à celui qui est venu en 62, celui qui est venu en 64, ça n'a pas la même mémoire. Et même si deux sont venus en 62 par le même bateau, etc., en juin 62, ça dépend de ce qu'ils faisaient en Algérie, ils n'ont pas la même mémoire quand même. Bon. Donc la mémoire est de l'ordre de l'individu. Hein. Alors, nous, comment nous allons faire? On a déterminé un cheminement dans ce mémorial qui est un établissement de 4000 mètres, de près de 4000 mètres carrés. Donc un cheminement avec une entrée-accueil qui va nous permettre de donner à voir ce qu'a été le fait colonial dans cette Europe du 19e siècle. C'est-à-dire, ce n'est pas une aventure propre à la France. Tous les pays d'Europe à cette époque s'y lancent. Et on va faire aussi un petit rappel de la première exploration coloniale des 16e, 17e et début du 18e siècle.
Alors, ce qui est rigolo, c'est que le lieu du mémorial est le même emplacement que là où a eu lieu les expositions universelles de 1906.
Les expositions coloniales de 1906 et 1922. Oui.
Donc, il n'y aura pas tout à fait la même chose à l'intérieur. Quoique, on peut peut-être retrouver des œuvres qui ont été exposées en 1906 ou en 1922 dans le mémorial.
Non, il ne faut pas oublier que ça va même plus loin. Non seulement c'est le lieu des expositions coloniales, qui ont été de très grands succès sur Marseille. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une culture coloniale, Marseille, les expositions coloniales de 1906 et 1922 ont été extrêmement visitées, suivies, etc. Mais en même temps, le pavillon
mais on y montrait
de l'Algérie...
Quoi on y montrait quoi à l'époque?
Ce qui se faisait dans les colonies, c'est-à-dire que chaque pays ou chaque espace avait son palais. Vous aviez le palais du Maroc en 22. En 1906, il n'y était pas encore, puisque la France n'était pas encore au Maroc en 1906. Là aussi, il faudra revenir sur des dates, parce qu'on s'imagine que milieu du 19e siècle, tout a été conquis en 10 ans, et puis après, non. Le Maroc, c'est 1911-1956. Le Levant, c'est 1921-1944. Le Levant, c'est la Syrie et le Liban. Donc, vous voyez, il y a des fois des périodes qui durent une vingtaine d'années ou 25 ans. Bon. Donc, non seulement chaque espace avait son palais, et dans ce palais ou cet édifice, qui était souvent construit d'ailleurs par des personnes qui venaient, qui étaient amenées pour construire ces palais-là. Et c'était pour donner à voir, parce qu'il y avait très peu de photos qui circulaient, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les films, etc. Donner à voir ce qui se passait outre-mer, ce que faisait la France outre-mer. Alors bien sûr, c'était assez élogieux, c'était assez... Il y avait pas mal de propagande, mais c'était pas et là Marseille est un petit peu à part, c'était pas quand même les zoos humains comme à Paris en 1931, c'était quand même un peu différent.
Donc là sur le mémorial, qu'est-ce que vous allez montrer?
Alors le mémorial, donc cette première entrée accueil, après une vaste mezzanine de 600 mètres carrés dans laquelle il y aura des tables des tables îles où chaque visiteur pourra apprendre des éléments. D'ailleurs, on appelle ça la galerie de référence pour nous, pour apprendre des éléments de référence sur l'histoire de la présence française dans chaque espace. Alors, on a déterminé comme ça des espaces. Vous avez l'espace Afrique, avec l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Vous avez l'Indochine, l'océan Indien.
Mais à l'intérieur voilà,
puis une série d'espaces comme ça. Et là, on aura donc des textes, des images, donc animées, fixes ou animées, et des tout petits objets du quotidien. Et on va approfondir chaque fois des points qui nous semblent vraiment très intéressants dans la salle d'exposition temporaire qui se trouve au sous-sol et qui fait 1400 mètres carrés, donc on pourra faire de très grandes et de très belles expositions.
Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est qu'est-ce que vous allez montrer? Donc là, j'ai compris le cheminement, etc. Mais quel type de... Enfin, je veux dire, vous allez montrer quoi? Les constructions que la France a fait outre-mer? Vous allez montrer, au contraire, l'exploitation que la France a fait dans ces pays-là, que la colonisation, du coup, a eu des méfaits aussi sur les populations colonisées, sur l'acculturation, tout ce qu'on connaît, on va dire, sur la colonisation.
Ben, on va montrer tout ça, mais on ne le montre pas, comme vous le dites, avec au contraire, comme si c'était... On n'est pas dans l'opposition. Je prends un exemple. La France construit un chemin de fer qui s'appelle le Congo-Océan. En réalité, il n'a pas une très grande utilité, mais c'est une vraie prouesse technique. On pourrait dire la France a construit un chemin de fer, le Congo-Océan, qui est magnifique. Mmh. On peut trouver des textes et des films, d'ailleurs, avec un présentateur très, très emphatique qui nous dit « Une nouvelle fois, la France a su porter son rayonnement scientifique, le fleuve Congo est dompté à jamais grâce à... »
Et après, vous dites aussi à quoi il sert.
C'est pas tellement ça. Mais par qui il a été construit, ce chemin de fer? Comment il a été fait? Par qui il a été construit? Et là, on s'aperçoit effectivement que la France a mis en place tout un système pour faire venir des personnes de villages parfois très éloignés, mais y compris femmes, enfants des 12 ans, pour les faire travailler dans la construction de ce chemin de fer. Et en même temps, ça...
Sans les payer, bien sûr.
Ah non, il les payait pas. Non, il les payait pas, mais il les nourrissait. Mmh. Il les nourrissait. Tant et si bien qu'à un moment donné, même André Gide est allé au Congo, a fait un voyage au Congo, une mission d'études et d'enquête au Congo pour le gouvernement français, dans laquelle il a dénoncé tout ça. Donc on le sait dès le départ. On sait dès le départ qu'on va construire, et on construit un Congo-Océan. On sait dès le départ qu'on exploite. André Gide le dénonce. Ça fait un tollé à l'Assemblée nationale, mais ça n'empêche pas, ça ne s'arrête pas. Et c'est de tout ça qu'on va montrer. Mais en même temps, il y a des... c'est assez complexe, c'est assez ambigu, parce que jamais la France n'a eu la même attitude dans son espace colonial. Elle a eu quantité d'attitudes possibles, et elle n'a pas agi de la même manière... En Indochine, elle n'a pas agi de la même manière au Laos, au Cambodge qu'au Vietnam. Et au Vietnam, elle n'a pas agi de la même manière que ce soit en Cochinchine ou au Tonkin.
Il y avait différentes politiques coloniales, mais il y avait quand même un but commun qui était quand même d'exploiter à fond les pays colonisés, d'essayer de prendre un maximum de main-d'œuvre pour la France, que ça coûte le moins cher. Enfin, il y avait quand même un but économique.
C'est pas un but économique. Alors, il n'y a pas un but économique. Pardon. L'Algérie en 1830, il n'y a aucun but économique. Aucun but économique. On ne sait pas que le pétrole, qu'il y a du pétrole. Et en plus, en 1830, le pétrole, c'est complètement anachronique. La conquête de l'Algérie, c'est faite pour que Charles X puisse redorer son blason, par rapport aux Français. Et donc, il a essayé comme ça de détourner la mauvaise opinion que les Français avaient sur lui. Bon, et il se trouve que après une politique hésitante, la France s'est installée en Algérie. Alors, en même temps, je prends le cas de l'Algérie, vous voyez qu'il n'y a pas une exploitation économique. Mais à partir du moment où il y a des Français qui arrivent, où il y a des Espagnols, des Italiens, etc., qui arrivent, il faut développer le pays. Et là, on a besoin de terres. Il faut bien prendre les terres, parce qu'elles appartiennent bien à quelqu'un. Donc, il y a des expropriations, ou il y a des spoliations, ou il y a des achats de terres. Et puis, à un moment donné, il faut construire des villes. Alors, ça se construit. Mais en même temps, il y a toujours un développement plus ou moins séparé entre ceux qui ont fait la conquête et qui estiment être, puisqu'ils sont les vainqueurs, ils estiment d'en récolter les fruits, et ceux qui sont les perdants et à qui on dit vous n'avez presque plus rien. Vous voyez ? Donc, c'est encore plus complexe que ça. À la fin du XIXe siècle, on ne sait pas toutes les plantations d'EVA en Indochine. C'est Michelin qui va venir.
Oui, c'est après.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que les conquêtes se font automatiquement par la volonté d'une exploitation économique. Ça viendra par la suite. Mais au départ, ce n'est pas toujours hein, parce que des fois, ça, c'était le cas. Mais ce n'est pas toujours la raison.
C'est agrandir l'Empire et asseoir le pouvoir de manière géographique.
Il faut être contre les Anglais.
Oui, pendant longtemps, d'ailleurs, il y a eu un parti en France qui était tout à fait anticolonial, qui ne voulait pas du tout que la France étende ses colonies, en particulier en Afrique. Et c'est, disons, vers 1880 que se fait le grand tournant. Et à ce moment-là qu'on voit l'implantation en Afrique en particulier, à côté des autres puissances, l'Allemagne, l'Angleterre, de la France. Mais c'est vrai que ça a été souvent extrêmement mitigé. Donc tout le monde ne voyait pas forcément l'intérêt économique, puisqu'il y avait tout un parti politique qui était tout à fait hostile à la colonisation, qui trouvait au contraire qu'on dépensait de l'argent à l'extérieur au lieu de l'investir en France. Donc cette nuance est importante. Mais c'est vrai que ça dépend des systèmes d'exploitation qui sont mis en place. Alors, par exemple, le Congo, où il y aura au départ une exploration qui est une exploration politique, une mise en place politique, ça agrandit l'empire français. Puis après, on va laisser s'y installer des sociétés concessionnaires qu'elles vont exploiter les populations et vraiment provoquer de nombreuses morts, si vous voulez. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il faut vraiment étudier, à partir justement des archives que nous conservons au centre, tous ces aspects qui sont très différents d'un pays à l'autre et en même temps aussi d'une période à l'autre. Et c'est ça qui est important de bien approfondir. À chaque fois.
Alors je vais vous faire écouter un extrait justement d'une archive qui date de 1957, une archive de l'INA qui montre au contraire que là pour le coup, on est un peu plus tard dans l'histoire, que la conquête algérienne rapporte beaucoup d'argent à la France et est un marché possible pour justement revendre un peu et est un marché pour l'exportation française.
En développement constant, le port de Marseille vient de voir ses exportations pour la seule Afrique du Nord atteindre le chiffre record de 3 millions de tonnes. Cependant, ce chiffre risque demain d'être amputé de 2 millions de tonnes. Car une menace plane sur tous ceux qui travaillent pour l'exportation. Demain, 1 sur 8 de ces travailleurs peut devenir un chômeur. Et à l'intérieur de l'entreprise, ce serait le licenciement pur et simple de ces spécialistes à qui l'avenir ne semblait poser aucun problème. Demain, l'industrie automobile devrait débaucher 10 000 ouvriers si le quart des voitures destinées à l'exportation demeurait sur le quai de départ, condamnant du même coup autant d'accessoires à rester dans les stocks du magazine. Demain, toutes ces raffineries qui transforment le pétrole brut pourraient se trouver privées de 40% de leur volume d'exportation. Et demain, peut-être, la moitié de ces vannes se fermerait avec un manque à gagner de 13 milliards de francs pour l'industrie du pétrole. Demain, l'industrie sucrière verrait, en plus de ses difficultés actuelles, la moitié du sucre exporté rester invendu. Perte 12 milliards. Cette lourde menace est pour demain. La France, isolée de son prolongement algérien, son principal client, connaîtrait une crise grave. Cette crise s'étendrait partout. Déjà éprouvée par la perte du marché indochinois, l'industrie textile verrait 15 milliards de commandes annulées et l'arrêt d'une partie de ses métiers. Ce serait 5000 ouvriers sans emploi dans le nord, 7000 dans l'est, 1500 dans la seule ville de Roanne. L'industrie électronique, en pleine expansion, verrait son élan brisé, car l'Algérie représente 7 milliards de francs d'achat. Du jour au lendemain, le tiers des appareils produits irait grossir le stock des invendus. Le trafic avec l'Algérie représente, pour le seul port de Marseille, 2 500 000 tonnes. 2 500 000 tonnes en moins, on peut aisément en imaginer les suites. Il y a plus grave. Le pétrole saharien est la plus grande chance pour la France de redevenir une grande puissance. Déjà coincé entre deux pays indépendants, le pétrole saharien perdrait le seul débouché demeuré sous le contrôle de la France. Il y a plus grave encore. Sur 8 travailleurs de l'exportation, avoir un chômeur, c'est avoir chaque jour une heure de travail en moins. C'est donc de l'argent en moins pour les laboratoires de recherche, pour les bureaux d'études sans lesquels aucun progrès technique n'est possible. Car qui dit stagnation dit régression. Et une réussite technique comme la Caravelle, qui représente 10 ans d'études et des centaines de millions d'investissements, est impensable dans un pays privé de moyens techniques. De plus, la disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Ce serait des jours de vacances en moins, ce serait des facilités en moins, ce serait des plaisirs en moins. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. La France mérite mieux que de se résigner à la retraite. Elle a mieux à faire que de vivre sur sa grandeur passée, de souvenirs et de recettes gastronomiques. Attention à demain. Pensez-y.
Voilà, donc un extrait de l'INA, une archive qui date de 1957, où on sent bien qu'il y avait un ministère de la propagande qui était assez actif à l'époque.
Faut faire peur aux Français en disant si on perd les colonies, déjà qu'on a perdu l'Indochine, hein, 54, le Maroc et Tunisie, 56. Donc si on continue à perdre les autres colonies...
Alors c'est faux tout ce qu'il raconte.
L'Algérie, hein. Bah, oui, c'est faux, mais ça fait partie de la propagande, ça fait partie de comment dire... Moi, j'avais l'impression d'entendre ce qu'on entendait dans les années 30 à la Chambre de commerce de Marseille, où on avait exactement ce même type de discours. La France ne sera pas une grande puissance si elle perd ses colonies. Voilà. Parce que dans le même temps, à la Chambre de commerce, il y avait un petit groupe de personnes qui disaient « Ce serait bien, finalement, les colonies nous coûtent peut-être un peu cher. » quoi. Mmh. Et puis, ils ne nous rapportent pas autant que ça. Voilà, donc... c'est un peu ce discours-là, c'est un discours très passéiste hein, qu'on entend en 57. Mais tout est, ou pratiquement tout est faux là-dedans. Hein.
Oui, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir aujourd'hui comment on pouvait manipuler aussi les esprits français sur cette histoire de colonisation. Et aujourd'hui, ma question, c'était par rapport au mémorial. Est-ce que ce type d'archives comme ça, qui est évidemment complètement fausse, mais qui existait, et c'était vraiment dans l'esprit, moi, ma grand-mère, elle pense ça encore, je pense, est-ce que ça va être retracé et comment ça va être mis en valeur, enfin en tout cas, ou ben, exposé.
En tout cas, il peut y avoir hein, des soit des textes, soit des passages comme ça, radiophoniques, enfin, audio, ou visuels d'ailleurs. Hein. Mais le but, c'est pas de le livrer tel quel. C'est de dire, voilà, à cette époque, voilà comment on pensait. Voilà comment on élaborait un discours. Mais ce discours... Il doit se contextualiser, c'est-à-dire qu'on le remet dans sa période et on indique aux personnes qui vont écouter ce discours, on indique très clairement les tenants et les aboutissants, et ce qui permet de comprendre mieux ce qu'est ce discours, qui n'est pas un discours économique d'ailleurs. Hein. Mmh. Il ne parle que de l'économie, mais c'est un vrai discours politique, mmh. de propagande politique.
Mais après, est-ce que vous pouvez dire, bon, bah, c'est faux. Enfin, ce qui est dit, évidemment, est faux. Est-ce que vous pouvez
On dira pas c'est faux ou c'est vrai. On dira, voilà ce qui... Parce que quand il a dit... Si vous prenez cette archive-là, hein, on peut le traiter comme un témoignage d'une personne qui nous dit... Bon, donc c'est quelque chose qui a été écrit, c'est quelque chose qui a été gravé quelque part, puisqu'on l'écoute. Donc, c'est une archive. Maintenant, le but de l'historien, c'est pas de dire cette archive est fausse ou vraie. Elle est vraie puisqu'elle existe. Mmh. Donc, elle a bien une existence. Mais dans le discours qui est donné, est-ce qu'elle n'est pas empreinte de mensonges ? C'est ça qui c'est pas vrai ou faux.
Oui.
C'est-à-dire que quand cette archive est vraie, mais le discours qui est tenu est un discours qui, avec un petit peu de critique, peut être démonté très facilement. Mmh. Et c'est ça qu'il faut montrer au mémorial. Pas de dire, vous devez penser ça, ou vous devez croire ça, ou on n'est pas là pour avoir une histoire officielle. Etc. On est là pour dire, voilà comment ça s'est passé, on s'approche de la réalité, on vous donne des clés de lecture, des clés de compréhension, des éléments de référence, à vous, après, en sortant, parce que vous avez été interpellé, vous avez été interrogé, à vous de réfléchir. Mais on donnera pas... on donne la marche à suivre, mais on ne dit pas ce que les gens doivent penser.
Donc le mémorial est écrit uniquement, principalement à partir d'archives ?
Oui, à partir d'archives, oui, bien évidemment à partir d'archives. Et on ne peut rien faire sans ça, parce qu'on n'est pas musée. Donc on n'a pas vocation à avoir ou à constituer des collections. Donc on est obligé de travailler avec beaucoup de partenaires, hein, Et effectivement, ceux qui détiennent les archives sont nos partenaires privilégiés.
Alors comment ce projet de mémorial est intégré dans le centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence? J'imagine que du coup, ça vous avez beaucoup de travail en plus. Enfin, comment ça a un peu chamboulé votre quotidien et comment vous êtes impliqué dans cette histoire de mémorial?
Ça n'a pas encore bouleversé notre quotidien parce qu'il faut attendre que le mémorial ait pris, je pense, sa vitesse de croisière. Je pense que nous aurons un partenariat écrit, une convention entre le mémorial et le Centre des archives d'Outre-mer et qui permettra comme ça d'établir notre façon de travailler ensemble. Alors déjà, le directeur du centre, mon prédécesseur, moi-même, nous faisons partie du comité scientifique qui a été créé pour mettre en place justement cette galerie de référence. C'est une sorte de centre d'interprétation. Si on était, je crois, dans un monde anglo-saxon, c'est ce que l'on dirait. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc pour le moment, nous savons que nos sources, qui sont...
C'est-à-dire un centre d'interprétation, d'interpréter...
C'est-à-dire que les anglo-saxons ont cette expression-là pour expliquer leur histoire, souvent appeler ça un centre d'interprétation. C'est-à-dire justement de donner les outils pour mieux comprendre une période historique ou un fait historique important. Donc nous avons des sources, comme effectivement on l'a rappelé plusieurs fois, et ces sources n'existent pas si les historiens ne travaillent pas non plus sur ces sources. Nous, on les conserve le mieux que nous pouvons, on les classe pour donner un accès, parce qu'on a 38 km d'archives, donc on ne laisse pas un lecteur se promener dans 38 km d'archives comme dans un supermarché. On est obligé de lui donner quelques références, quelques clés. Et puis, à eux, après, de faire leur moisson, si je puis dire, et d'enrichir leur réflexion, la réflexion historique à partir des sources qui existent et sur lesquelles il faut effectivement porter toujours un regard critique. Parce que les sources, elles sont issues de l'administration en grande partie. Chez nous, c'est l'administration civile, du ministère des colonies, des gouvernements généraux qui ont été à la tête de ces colonies. Donc, elles ont été faites dans un certain contexte, dans un certain sens. Et c'est l'historien qui doit prendre tout cela, si vous voulez, pour pouvoir travailler.
Oui, ce sont les archives françaises pour la plupart.
Ah, ce sont les archives françaises, puisque chaque pays conserve ses propres archives nationales.
Et le mémorial, enfin le comité scientifique, est-ce que vous travaillez aussi avec des archives justement des pays qui ont été colonisés, qui sont directement concernés par ce mémorial,
tout cas les peuples? Enfin, pas encore, je dirais pour l'instant. On est mémorial national de la France Outre-mer, alors on travaille sur un espace qui est français, même si on pense bien que dans les années à venir, de toute manière, il faudra bien avoir justement un centre d'interprétation comparatiste de ces histoires coloniales.
Parce que les historiens africains ou laotiens, je sais pas, ont sûrement leur point de vue sur la présence française.
Oui, non, mais là on peut avoir ces points de vue. Parce que,
enfin, point de vue ou des archives même.
Les historiens sont des pays où la France a été présente et qui sont maintenant indépendants, publient des livres, donc on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils ont comme archives, souvent. Donc, je dois dire qu'on a tellement déjà d'archives à consulter ou à compulser ou à voir, et de centres d'archives, c'est énorme. La masse de documents, alors écrits, mais photographiques, filmique,
ça donne qu'un point de vue énorme. Du coup, il n'y a pas de regard croisé aussi, donc ça donne qu'un point de vue. Ça, c'est une mémoire.
Pas vraiment. C'est une interprétation, mais comme on croise les différentes sources. Alors, c'est vrai que c'est souvent des sources officielles. Mais moi, pour avoir travaillé sur l'Algérie et puis un petit peu sur l'Afrique, on rencontre que parfois, dans les archives, ce que dit le gouverneur contredit ce que va dire l'archevêque qui va dire quelque chose qui va être contredit par le général ou par un tel administrateur. On n'a pas, en fonction des personnes, une pensée unique. Il n'y a pas une vision unique du fait colonial. Hein? Moi, si je veux traiter du Congo, que j'ai tout ce que peut dire les grandes compagnies concessionnaires, il y en a de très grandes, Si j'ai à côté de moi ce que dit Gide et ce que dit le gouverneur de l'époque, qui est contre les compagnies concessionnaires, ça donne déjà très largement plusieurs mémoires et plusieurs... plusieurs moyens de
oui, mais à chaque fois, ce sont des mémoires des Français. Il n'y a pas de mémoire des peuples qui ont subi.
Oui, mais je crois qu'il faut. Non, parce qu'on fait parler Empateba, parce qu'on fait parler Cédar Senghor, parce qu'on fait parler Aimé Césaire, parce qu'on fait parler Léon Dierks, parce qu'on fait parler. Voilà. Parce qu'on fait parler Pomaré. Une reine de Polynésie, parce que il y a eu des discours sur elle et elle-même a laissé aussi des choses. Donc, vous voyez, on a tout ça. Il ne faut pas s'imaginer que dans les archives, on a uniquement quelque chose de. Et puis on a des journaux, et puis on a des films. Donc on peut croiser les sources à l'infini. Et pour revenir, moi je suis pas persuadé non plus que qu'il faille automatiquement prendre l'avis de chaque fois un historien du pays qui est devenu indépendant pour, entre guillemets, contrarier ce que dit l'historien du pays, entre guillemets, dominant. On peut être un historien français et être capable, heureusement, de se projeter sur... mais que pensaient à cette époque les personnes qui étaient comme ça et qui étaient exploitées ou soumises ou etc. Parce que on a cette capacité là de le faire maintenant.
Pour continuer un petit peu sur cette mémoire et son écriture, est-ce qu'on veut donner à voir et à entendre aux Marseillais et puis à d'autres, hein, puisque ça a une vocation nationale, ce lieu. Aujourd'hui, le néocolonialisme existe, il n'y a pas besoin de le prouver. On parlait tout à l'heure d'exploitation, elle continue, l'exploitation pétrolifère au Nigeria, en Guinée, etc. Les compagnies pétrolières se font un maximum de bénéfices, ça a encore été hier dans les journaux, et les peuples sur place, évidemment, ne bénéficient absolument pas de tout cet argent. Donc à un moment, est-ce que, et ça c'est quand même, je ne vais pas dire que c'est une conséquence, mais ça en fait partie, la colonisation a joué aussi son rôle dans cette relation-là avec ces pays. Est-ce que c'est raconté, ça ? Ou comment ça va être traité ?
Alors, il y a deux choses. Enfin, raconter, c'est pas raconté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pays deviennent indépendants, il y a... Alors, indépendance économique ne rime pas toujours avec indépendance politique. Hein. Mmh. Ouais. Ça, on est bien d'accord sur ce point. Il y a toujours des liens qui se font avec les anciens pays, sauf cas exceptionnels comme la Guinée, par exemple. Mais il y a toujours des liens qui se font avec les pays. Alors, est-ce qu'on est rentré dans le néocolonialisme, etc. C'est une autre question. Alors, pour le mémorial, on va pas aller aussi loin, je dirais. Mais moi, je crois qu'il faut poser la question aussi du rapport des classes dirigeantes des pays à leur propre indépendance. C'est-à-dire que je suis d'accord pour admettre qu'il faut analyser la part de la colonisation, ou ce qui reste, dans l'état actuel, enfin l'état économique, politique, social, sanitaire, etc. Des états maintenant indépendants, mais en même temps, on ne peut pas dire que la France est comptable uniquement de la situation des pays aujourd'hui. Si on tient ce discours-là,
c'est un ensemble de choses.
On est encore dans quelque chose de complètement fantasmé et on retombe dans le bien et le mal. Mmh. Interrogeons les élites qui sont au pouvoir dans ces pays depuis 40, 50, 60 ans. Et est-ce qu'on peut dire que depuis 100 ans, il aurait pu se passer autre chose que ce néocolonialisme-là. Donc, il y a forcément des deux. Vous voyez, la position d'historien, c'est pas de dire, oui, comment tel pays se trouve dans cette situation, mais c'est parce que la France l'a colonisé Haïti.
Non, mais ça, voilà. non, mais c'est pas
la France n'est plus
c'est pas la
en
raison,
Haïti depuis
mais ça,
1800.
Non, mais forcément, ça en fait partie.
5, 8, je sais pas.
C'est un tout. Enfin, je veux dire, ouais. Ça en fait partie.
Voilà,
c'est
voilà. Une... Mais oh, voilà.
Mais il faut pas non plus l'ignorer.
C'est une partie, Mais à mon avis, c'est une partie qui s'effiloche de plus en plus parce que la partie, à mon avis, la plus importante, c'est l'impéricide de ceux qui ont pris le pouvoir aux indépendances et qui n'ont pas, dans une grande mesure, su mener leur pays vers d'autres voies.
Oui, enfin bon, eux-mêmes étaient quand même aussi sous le joug des politiques occidentaux.
Ouais, voilà, donc, bien sûr, mais il y a tout ça à voir.
Les coups d'État, etc.
Tout ça. Oui, bien sûr.
Pour revenir un peu sur le fonctionnement du mémorial, c'est intéressant de voir comment est décidé justement ce contenu. Donc on parlait tout à l'heure d'un comité scientifique. Quel rôle il a ce comité scientifique? Comment vous travaillez ensemble?
Alors, en règle générale, les textes au départ sont élaborés par l'équipe du mémorial avec l'aide de spécialistes de chaque question qui font partie du comité scientifique. Après, ces textes sont proposés au comité scientifique, donc lecture, travail, pour avoir un texte qui est, je dirais, irréprochable scientifiquement.
Voilà. C'est-à-dire
qu'on ne pourra...
Ah oui, avec plusieurs preuves.
On ne pourra rien dire qu'on ne pourra pas prouver. On ne pourra rien avancer qu'on ne pourra pas prouver. Donc c'est déjà... Le premier point d'honnêteté de ce mémorial, de ce conseil scientifique. Et dans ce conseil scientifique, on retrouve des historiens, des professeurs d'université, directeurs de recherche, des conservateurs d'archives, des directeurs de centres d'archives.
Comment il se crée ce comité scientifique? Qui est-ce qu'il le...
Ah ben, il a été créé au départ de la création, enfin du lancement de la mission de préfiguration du mémorial, avec un point très, très, très simple, je dirais, c'est que le maire de Marseille a demandé à ce que le comité scientifique soit irréprochable par rapport à ses capacités, je veux dire, scientifiques, intellectuelles et d'honnêteté. Donc, à partir de là, il s'est constitué sous la direction de Jean-Pierre Rioux, qui était longtemps directeur de recherche CNRS, historien.
Et doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Et qui est inspecteur général de l'éducation nationale. Et, voilà, et donc, qui lui est le président du conseil scientifique. Donc, on a comme ça...
Et alors après, j'imagine que le conseil scientifique élabore plein d'envies, de thèmes, de travail, etc. Et comment ça se... comment après, ces envies et ces thèmes sont mis ou pas en place? J'imagine qu'il y a le conseil d'administration après
il y a une discussion,
du mémorial.
Après,
après,
c'est présenté au comité de pilotage. Comité de pilotage qui lit, mais qui valide en règle générale ce qu'il y a dans le comité scientifique, parce que le comité de pilotage, c'est pour assurer le suivi global du projet, hein. Qui valide ou qui interroge. Il peut interroger aussi le comité scientifique en disant vous dites ça, mais on a entendu que ça, etc. Voilà, et à nous de faire la preuve que ce que nous mettons est inattaquable.
Comment vous, à l'intérieur du mémorial, vous avez vécu, vous vivez en ce moment l'actualité, cette fameuse loi du 23 février, l'alinéa 4, qui a été enlevée aujourd'hui, mais comment vous, à l'intérieur, vous avez vécu cette actu?
Moi, je peux répondre au sens des archives d'outre-mer, pas pour le mémorial.
Martine.
Enfin, moi, je pense que de toute façon, ce n'est pas aux législateurs d'écrire l'histoire, mais c'est aux historiens. Et que c'est certainement une sage décision que de revenir sur cet amendement. C'était un amendement qui avait provoqué cet article. Non, je crois qu'effectivement, il faut laisser les historiens écrire l'histoire.
Très bien. Donc, les historiens seront évidemment aux premières loges dans l'écriture de la mémoire de ce mémorial.
L'écriture de l'histoire et faire en sorte que les mémoires se retrouvent dans cette histoire-là.
Rendez-vous donc début janvier, non début janvier, début 2007, on ne sait pas encore très bien
la date. Oui, 2007.
Rue Rabatteau.
Boulevard à bateau.
Boulevard à bateau. Pour l'instant, il y a quelque chose. Oui, il y a, vous avez les bureaux déjà, c'est construit.
C'est pas encore, le mémorial n'est pas construit, puisqu'il y a encore il y a 14 mois de travaux. Mais on a des locaux juste à côté qui vont nous permettre de. Qui nous permettent déjà d'avancer sur les textes et qui vont nous permettre de suivre aussi la construction de ce mémorial.
Est-ce qu'il y a déjà un site internet ou non,
c'est encore en construction.
Tout est en construction.
Oui, tout est en construction. Oui.
Bon, on va prendre rendez-vous donc pour l'ouverture du mémorial.
Ben, avec plaisir.
Merci beaucoup Martine Cornel. Donc, je rappelle que vous êtes directrice du Centre des archives d'Outre-mer qui a lieu à Aix-en-Provence.
Et qui a un site internet.
Et qui a un site internet qu'on peut donner peut-être.
Sur lequel il faut aller.
Alors moi je l'ai par contre. www.archives. Non, ça c'est le site plutôt des archives nationales.
Non, mais nous sommes un centre des archives nationales.
C'est sur le même... oui, d'accord. Oui. Donc www.archives au pluriel national tout attaché .culture.gouv.fr/... CAOM, CAOM/FR, ça c'est pour les archives d'outre-mer. Pour le mémorial, il faut attendre.
Un petit peu.
Merci Jean-Jacques Jordi.
Merci.
Et puis à très bientôt. Imagine my Eva Man, 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 Eva Man,